Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion du colloque « Éthique des médias, de l'information au marché » tenu à Montréal en avril 2009. Welcome to the audio podcast of the Media Ethics from Information to Markets Conference that took place in Montreal in April 2009.
Alors, pour la deuxième présentation, nous aurons Raymond Corriveau de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui nous présentera une communication accompagnée de PowerPoint qui s'intitule « L'état de la situation médiatique au Québec ».
Donc, j'ai modifié un peu l'origine de la présentation parce que la présentation d'origine plutôt, parce que j'ai parlé de la tournée des tournées. C'est vraiment une démarche que nous avons faite pour rencontrer le public. Et sur le modèle constructiviste de notre ami Occhiali, j'ai trois éléments. Donc, le déplacement de l'élément significatif pertinent. Ah, donc, nous avions fait une tournée et nous avons vécu de très sévères conséquences du fait de faire la tournée. J'ai essayé de comprendre pourquoi. J'ai fourni une hypothèse en dernier lieu. Si vous voulez bien, on va commencer par la première ligne d'en haut pour vous donner un petit peu de contexte. Donc, la tournée, c'est un projet du Conseil de presse qui était dans les cartons depuis maintenant près de 7-8 ans. À mon arrivée au Conseil comme président, on a fait un plan d'action qui a été voté, quasi à l'unanimité, dans lequel il y avait la tournée et ses suites. La tournée, donc, se veut une démarche pour rencontrer le public, puisque le conseil de presse représente le public pour lui garantir le droit à une information libre et de qualité. Donc, nous avons, au cours des années, bataillé pour changer d'abord les règles d'attribution des énormes subventions de patrimoine canadien normalement dévoué aux entreprises, notamment au fond des magazines. Et grâce à notre travail pendant 3 ans, on a changé quelques lignes des paramètres d'accessibilité du financement pour devenir éligible au financement de la tournée. Donc, nous avons, au sein du Conseil de presse, fait voter une résolution pour l'adoption de telle somme. Ce qui fut fait. Nous avons par la suite voté en conseil d'administration, je pense que c'était cette fois-là majoritaire, pas majoritaire, mais unanime, les modalités de tournée, les questions de tournée, etc. Nous avons effectué la tournée. À notre grande surprise, dans les premiers moments de retour, lors du rapport de la production, de ce que les gens nous ont dit, parce que il faut bien comprendre que la tournée n'était pas ce que nous disions, mais bel et bien ce que les gens nous ont dit. Alors, déjà, un grand groupe de presse a signalé sa vive opposition à la production du rapport. Nous avons modifié le rapport, effectivement, il méritait d'être bonifié, j'en conviens, mais les éléments essentiels demeuraient les mêmes. Par la suite, nous avons connu une période où certains membres radio-télé ont quitté le conseil de presse pour se regrouper dans un organisme corporatif fédéral. Cette tentative-là était dans les cartons depuis 1990, mais il y avait toujours eu une opposition politique québécoise à cette démarche-là. Cette fois-ci, il n'y en a pas eu. Alors, pour finalement réaliser qu'une fois affaibli par ce départ, certaines entreprises de presse ont, ni plus ni moins, que travailler un rapport de force, donc en utilisant nos règles, qui sont, rappelons-le, tripartites, puisque le conseil de presse est composé des journalistes, des gens du public et des entreprises de presse. Donc, il faut que toutes nos instances travaillent de façon tripartite. Donc, quand une des parties se retire, le comité de suivi de la tournée est tombé de facto paralysé. Et tant et si bien que récemment, le conseil d'administration, devant cet état de fait, a décidé de surseoir au suivi de la tournée, de le mettre, je ne sais pas, entre parenthèses, et de convoquer le 29 mai une très grande discussion sur, en fait, les grands thèmes sur le financement, le mandat du conseil et notre mission en général. Ce qui est assez étonnant, en fait, de voir qu'un organisme qui prétend représenter le public et qui va voir les gens du public partout au Québec se retrouve avec ce genre de problème-là. Donc, ce qui m'apparaît important, c'est qu'on ait un petit aperçu maintenant dans la tournée, de faire une rapide rétrospective. Donc, rapidement, je vais passer rapidement à recueillir les impressions du public, les représentants d'organismes socio-économiques sur la qualité de l'information dans chacune des régions. Donc, il y avait toujours au moins deux rencontres par région administrative. Une qui était publique le matin et le soir et le matin, c'était des rencontres avec des acteurs socio-économiques, des gens qui travaillent en développement de la santé, de la culture, etc. À partir du diagnostic et des solutions avancées par les participants, produire un rapport, formuler des recommandations, faire évoluer la situation si possible. Donc, aussi, mieux faire connaître le conseil de presse. 17 régions visitées, 48 rencontres au total, 31 rencontres socio-économiques, 17 assemblées publiques, plus de 500 participants, 250 membres du public, plus de 200 représentants socio-économiques, donc qui représentent des gens eux-mêmes. Les décisions du CRTC se prennent à moins de monde que ça, soit dit en passant. La seule fois dans l'histoire du Québec, nous sommes dans une société dite d'information. C'est la seule fois dans l'histoire du Québec, jamais personne avant nous n'a fait une tournée pour connaître l'état de l'information. Nous sommes dans une société dite d'information. Et la Banque mondiale propose des thèmes comme l'information comme moteur essentiel au développement. Donc, je vous fais grâce d'un certain nombre de détails, des entretiens semi-dirigés, des questionnaires. Les faits saillants. La première grande constatation, alors c'est intéressant parce que c'est une forme d'éthique citoyenne. Les gens nous ont dit comment ils recevaient l'information. C'est assez intéressant. Alors, quand les gens vont vous dire, notre information, oui, mais si on est sensationnel, c'est parce que les gens nous demandent ça, c'est les gens qui demandent ça pour le tirage. Jamais, jamais. Pas une seule personne sur les 17 régions administratives, pas une seule ligne, pas une seule réponse, pas une seule personne nous a dit que oui, il fallait avoir de l'information sensationnaliste parce qu'on en voulait et on aimait ça. C'est tout à fait le contraire. Trop de sensationnalisme, préscience à couvrir des événements chocs, spectaculaires, négatifs. Souvent, les gens ont dit « on travaille pour antagoniser des points de vue, il y a un manque d'équilibre et un incroyable manque de mise en contexte. » Il y a des secteurs particulièrement malmenés par les médias, les mal-aimés, donc le secteur de l'éducation, des Premières Nations, les gens de la sécurité civile, les gens de la santé, de la culture, du transport. Ce qui est assez impressionnant, c'est que ces gens-là n'ont pas de préjugés. Ils ont très souvent construit de très sérieux dossiers. On n'est pas dans l'impression. Ils ont construit de très sérieux dossiers à l'effet de que les journalistes couvrent de façon superficielle et absolument sans produire du sens. Les solutions, on a insisté sur la rediffusion de l'information régionale, etc. Ce ne sont pas les solutions que nous, on va pouvoir promouvoir, parce qu'actuellement, c'est en, entre parenthèses, mais les solutions vont de la formation à création de prix, à même à la création d'une commission parlementaire sur l'état de l'information, etc., etc. L'autre point qui est l'accès à l'information, c'est fascinant de voir les municipalités rurales jusqu'à quel point elles peuvent être désavantagées. Il y a des grandes régions du Québec qui n'ont d'abord, la plupart des régions, des 17 régions administratives, n'ont pas de quotidien. Il y a des régions, je pense au Témiscouata, où c'est des zones grises. Il n'y a absolument aucune diffusion. Alors, c'est à ce moment-là que les médias communautaires se manifestent. Et comme président, on m'a reproché d'avoir été surpris de la vitalité des médias communautaires. Je demeure toujours surpris de la vitalité des médias communautaires. Je pense que qu'il y ait des médias communautaires où il n'y a pas de marché de l'information, hein, où il n'y a pas d'information, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... où il n'y a pas de marché de l'information, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas droit à avoir de l'information. Le problème aussi de l'accès à Internet haute vitesse, il faut s'imaginer vivre sans Internet. Essayez ça quelques instants, voir, à part que pendant vos vacances, là, voir si ça fait toujours votre affaire. Ça freine le développement, ça prive les citoyens, etc. Ça nuit au travail des journalistes, ça nuit au travail du développement. Alors, il y a plusieurs problèmes qui ont été relevés. Problème d'accès aux médias écrits. Alors, qu'est-ce qu'un quotidien avec les nouvelles d'il y a deux jours? Les quotidiens ne rentrent plus actuellement, par exemple, aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, d'où l'importance de la radio communautaire aux Îles-de-la-Madeleine, par exemple. Il y a un problème aussi de redistribution satellitaire. Donc, là, dans certaines régions, les entreprises de presse, on va quand même le dire, font des efforts pour produire de l'information régionale. Mais le Québec, ce sont de grandes régions où il n'y a pas toujours de câble de distribution. Alors, il y a un problème majeur, à savoir que les satellites vont rediffuser, par exemple, les nouvelles de Calgary à Saint-Tite. On a parlé de modifier la redistribution satellitaire, de partenariat avec les médias locaux et régionaux, les médias communautaires, d'accroître l'aide gouvernementale aux médias communautaires. La sous-représentation des régions, c'est un problème majeur. C'est vraiment le dossier qui fâche à l'ensemble du Québec. La sous-représentation des régions, les gens disent « on ne sait pas ce qui se passe dans notre région ». Alors, les médias nationaux traduisent mal ce qui se passe dans nos régions. Finalement, en bout de ligne, est-ce qu'on sait ce qui se passe vraiment chez nous? Sur la crise forestière, par exemple, les gens disaient « on aurait aimé avoir les solutions qui se développent au Saguenay ou en Abitibi, quand nous, en Gaspésie, on a le même problème. » Alors, comment on fait pour prendre des décisions politiques? Comment on fait? À quoi revient la puissance du vote lorsqu'on connaît mal nos régions? Et la même chose à l'échelle du Canada. Il y a donc un manque de couverture régionale. Il faut dire que il y a plusieurs organismes, et ça, c'est nouveau. On n'avait jamais rencontré ce problème-là. Le Québec est divisé en régions administratives. Ces régions administratives-là ne coïncident pas avec le marché des médias, de un, et parfois avec les réalités, je dirais même régionales. Alors, vous avez les gens de Valleyfield qui sont nulle part, et vous avez aussi les gens de Lévis et de Longueuil qui se disent très mal servis par les grandes entreprises de presse qui sont basés dans la capitale, juste ou régionale, fédérale ou économique, juste de l'autre côté, c'est vrai pour l'Outaouais aussi, juste de l'autre côté du fleuve. Donc, c'est difficile pour des gens qui ont des mandats régionaux, je pense aux commissions scolaires, par exemple, de publier des choses parce que la région ne correspond pas au marché de l'information. Donc, à des endroits, on parle jusqu'à 7 communiqués de presse pour annoncer la même nouvelle. Donc, on parle d'augmenter le nombre de tours des régions dans les médias. C'est que Radio-Canada fait une excellente émission, mais on œuvre à l'écoute où, dans le fond, on réalise que les problèmes régionaux ne sont pas régionaux du tout et très souvent, ils ont des ancrages nationaux, voire très souvent internationaux. Donc, on se dit, on a une heure sur Terre, pourquoi pas faire de temps en temps une heure sur le Québec. Au niveau de la presse hebdomadaire, on parle d'efforts de couverture locale, mais le ratio de publicité est trop élevé. Alors, il faut savoir que c'est une presse gratuite. Donc, le prix du papier, du transport, ça crée de sérieuses pressions à l'augmentation. Et pour les journalistes, il y a des difficultés à vivre. Par exemple, la jeune journaliste dans le bout de Chibougamau, si elle rencontre, si elle fait un document qui met à mal un peu le maire de la place, on va le rencontrer dans la seule épicerie du village. Donc, il y a différentes solutions, encore une fois, mesures fiscales, être davantage aux pigistes, etc. Le conseil de presse, bien écoutez, les gens nous ont dit, grosso modo, j'irai rapidement là-dessus, les gens nous ont dit, venez plus souvent, publicisez vos décisions, ce que nous voulons faire, nos décisions prises plus rapidement. On parle beaucoup d'éducation aux médias et on a aussi questionné l'autonomie et l'indépendance du conseil de presse. Les derniers événements donnent un peu raison à ces critiques-là au niveau des gens. Donc, accroître le financement, rendre le financement du public majoritaire. On parle de loi cadre, donc ce sont toujours des propositions du public. Rencontrer les autorités politiques, protéger la liberté de presse, l'adhésion obligatoire, un saut de qualité conseil de presse. Il y a des gens qui parlent d'une vigie, d'un vérificateur général de l'information et exploiter davantage le processus d'autosaisie. C'est ce que les gens ont dit. Et dans le suivi de la tournée, nous avons classé les propositions en trois catégories. Celles qui ne rencontrent pas la réalité, en fait, qui ne sont pas réalistes, les gens en ont fait. Celles qui occasionnent de sérieux débats, mais il y avait les deux premières catégories, celles faciles à réaliser et celles sur lesquelles on pensait pouvoir établir de consensus. Alors, la réalité des faits est la suivante, c'est que les entreprises de presse ont, ni plus ni moins, paralysé les suites de la tournée. Je me suis posé la question. Une des pistes, c'est un peu le modèle d'affaires des entreprises de presse qui entrent en contradiction avec ce qui est proposé par les citoyens dans la tournée. Je croyais, moi, que pour les entreprises de presse, il y aurait eu la possibilité, voire l'opportunité de faire un exercice de relations publiques, même à la limite avec ça. Mais devant ce blocage-là, ça m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, j'ai voulu regarder quel est le modèle. Et les économistes de gauche comme de droite vont avoir un seul point de convergence, c'est la distribution comme moteur de la plus-value. Alors, j'ai dit, tiens, si j'applique ça au niveau des entreprises de presse, vous allez voir, je n'ai rien inventé là-dedans. J'ai juste mis sur la même acétate plusieurs choses qui circulent, qu'on a vues, que certains ont développé en détail. Mais j'ai comme réfléchi, pour augmenter la distribution, la dimension financière, on a travaillé sur la concentration, les aspects financiers, on a vu donc la fusion, l'acquisition d'entreprises, la multiplication des plateformes. Sur le processus de taylorisation du journaliste, multiplication des affectations, des commandes, alors c'est toutes des choses qu'on a vues, qui ont été documentées dans la tournée. Les gens nous ont dit ces genres de choses-là. Le journaliste orchestre aussi. Alors, on voit une jeune fille qui alimentait 5 plateformes, une jeune journaliste, et elle devait défrayer son essence dans les déplacements. Il y a la précarisation de la profession. Alors, ce sont des choses qui ont... Les jeunes journalistes, par exemple, se font dire, « Va me chercher telle nouvelle. » Et ils n'ont pas trop... Ce qu'on nous a rapporté, c'est qu'ils n'avaient pas trop le choix de refuser. Il y a la mise en produit d'informations, donc la perte de la spécificité régionale parce que la diffusion est moins grande, universellement exploitable. Alors, c'est là qu'il y a des histoires à n'en plus finir avec les fameuses déesses d'Hollywood, là, toutes les Paris Hilton de la Terre. Il y a aussi les 3S, donc sans sexe et sport. Et maintenant, on s'est un peu raffiné. On est dans la trilogie dominante qui est spectacle, émotion, témoignage. Et il y a la création de scandales. Au Québec, on a vu des premières pages sur le racisme et des histoires sur les piscines, par exemple. L'information et la reproduction du modèle d'affaires, comme dans tout modèle qui veut s'installer à long terme, d'abord, il y a une précarisation de l'État. Et ça, c'est assez intéressant parce que les gens nous ont fait remarquer la chose suivante, c'est qu'il y avait, au niveau des entreprises de presse, souvent un angle qui vise à précariser l'État. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les entreprises de presse semblent vouloir ignorer l'ensemble de règles. Ils ne veulent pas se voir imposer par des règles et encore moins des règles imposées par l'État. Il y a une promotion de la conception libérale de la presse au détriment de la responsabilité sociale de la presse. Donc, vous savez, on est dans les années 50 quand le fameux rapport Hitchens est sorti puis il a dit non, il n'y a pas rien qu'une conception de la presse. Donc, on veut un individu d'abord consommateur et non pas un individu citoyen. Donc, pour terminer, j'ai juste essayé de voir quels éléments dans la tournée pouvaient fâcher ce modèle-là ou arriver en contradiction avec ce modèle-là. Et sans trop me forcer, j'en ai trouvé plusieurs. Alors, si je suis sur la piste d'une explication à mon problème, donc je vous faisais état de où il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'information. Donc, quand on fusionne et on crée des grands conglomérats, bien, c'est clair que là, on va enlever et on va fermer des stations à différents endroits. La couverture est tout à fait inégale au Québec, alors qu'il me semble que ça devrait être une chose que nous devrions garantir. L'information de Calgary, mais pas de Saint-Tite. Donc là, à ce moment-là même, c'est au détriment des entreprises de presse qui dépensent de l'argent pour faire de l'information régionale, mais que le réseau satellitaire ne rediffuse pas de façon régionale. Des jeunes journalistes qui paient leur essence et alimentent quatre plateformes. Diminution partout du nombre de journalistes. Alors, quand les gens dénoncent ça, ça ne va pas tout à fait dans le modèle d'affaires. Absence de recherche et de vérification. C'est évident que quand un journaliste a quatre plateformes à alimenter, il peut difficilement chercher des choses neuves, fouiller et vérifier des tonnes de choses. Et on voit à ce moment-là, surtout dans la presse hebdomadaire, la reproduction intégrale de communiqués. Dans les deux dernières colonnes, des plaintes récurrentes sur le caractère sensationnaliste, antagoniste et réducteur de l'information. Ça va un peu contre le modèle proposé en haut. Les gens nous ont parlé actuellement de l'information en articulant toute la question des oppositions, des antagonismes, se trouve à travailler contre les liens sociaux. Et on a parlé d'une sous et d'une mauvaise représentation des régions, de façon généralisée. Donc, si on va plus loin, ben, on voit toute la question des médias communautaires qui a été très soulignée un peu partout dans la tournée. Mais là, on voit qu'il y a une hantise des médias communautaires par les entreprises de presse. La question qu'on se pose face au fameux modèle d'affaires, est-ce que ce que nous vivons est une précarisation du conseil de presse pour mieux implanter le modèle d'affaires? Nous avions l'intention de travailler avec des tables sectorielles, les mal-aimés de l'information. Alors, la mise en veilleuse des suites de la tournée font aussi que nous sommes sur le point, peut-être, de devoir mettre en veilleuse ces tables de concertation-là. Donc, c'est un peu les événements, l'état d'information. Donc, les questions soulevées. Le thème de la journée, c'était l'éthique et le marché. Vous avez une tendance d'avoir la réponse à laquelle je donne. Merci.
Oui, bonjour, Claire Roberge de Mediat McGill. Bonjour, bonjour, Raymond. Merci beaucoup de votre présentation. Je voulais vous demander si vous pouvez apporter, sinon des nuances, mais un petit approfondissement sur cette question qui semble, ou en tout cas sur ce commentaire qui semble émerger de votre présentation, c'est-à-dire qu'il y aurait un citoyen politique que vous avez rencontré fréquemment durant cette tournée qui vous dit que le rôle de journaliste tel que présenté par les entreprises de médias ne lui suffit plus ou pas. Et je me demandais à ce moment-là s'il y avait une dichotomie en ce que les entreprises semblent refuser de communiquer, ou en tout cas refuser le droit de leurs journalistes, ou comme vous voudriez le présenter, à communiquer comme le voudrait ce citoyen politisé. Si on suit un peu aussi le lien avec ce que Darren a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y aurait ce citoyen politique qui, finalement, voudrait de ce journaliste-là?
En fait, les acteurs socio-économiques, globalement, ont plutôt... il y a quelques exceptions, mais globalement, les acteurs socio-économiques ont plutôt aussi salué le travail des journalistes qui se débattaient dans de grandes régions et que tout le monde savait déborder. Et la question maintenant qu'on doit se poser, mais c'est est-ce que c'est le modèle d'affaires qui veut rentabiliser pratiquement à outrance le temps horaire d'un journaliste, donc lui faire alimenter plusieurs plateformes, parce que dans le métier, tout le monde sait qu'un journaliste qui développe un beat, comme il appelle, donc une spécialisation, est d'autant plus compétent pour poser de bonnes questions, déranger les politiciens quand ils doivent être dérangés et faire souvent avancer les dossiers. Et je pense que c'est le heurt qui se produit. C'est pas tant dans une intentionnalité de dire aux journalistes quoi ou ne quoi pas faire. c'est plutôt dans un modèle d'affaires. Quand on les encarcane dans ce modèle d'affaires-là, on enlève les conditions qui font qu'un journaliste peut réaliser, à mon avis, je pense, adéquatement son travail. Regardez, on pense partout. On trouve que dans le milieu universitaire, il y a des professeurs spécialisés dans tel domaine. Dans le milieu médical, c'est la même chose. Dans le droit, c'est la même chose. Et tout à coup, on arriverait dans le milieu des journalistes, puis ces gens-là seraient capables là, d'être bons dans tout, tout le temps, à peu près n'importe quand. C'est pas conforme au reste du monde, là.
Oui. Donc, si j'ai bien compris, il y avait trois objectifs principaux à la tournée des régions. Et le deuxième, c'était un peu de proposer des politiques publiques ou de proposer au gouvernement d'une façon de...
D'arriver
avec des propositions
pour... Tout le monde, en fait, aussi bien aux entreprises de presse qu'à l'État, est-ce qu'on peut faire des choses pour que ça aille mieux?
Oui, OK. Et donc, je me demandais, donc la conclusion du rapport, selon vous, c'est assez évident que le modèle d'affaires des médias est vraiment problématique et ça les amène... Donc, ça rend très difficile pour eux de remplir leurs fonctions. Mais à ce moment-là, donc quel est le type de proposition, concrètement parlant, qui émane du rapport? Qu'est-ce qu'on doit proposer au gouvernement ou à la communauté en termes de réforme des médias?
Ouais, les gens du public, parce que ce n'est pas nos propositions à nous, mais les gens du public semblent orienter ça vers un accroissement du soutien à ceux qui ne sont pas soumis par définition aux lois du marché. Donc, on pense aux entreprises publiques, on pense aux entreprises communautaires aussi. Donc, on dit, on comprend qu'il y a des endroits où il n'y a pas de marché, mais ça ne veut pas dire que les gens qui y vivent n'ont pas de droit à l'information. Donc, comment on pourrait, à ce moment-là, ben, c'est le rôle qui relève soit des entreprises publiques. Alors là, vous voyez les coupures à Radio-Canada. Pas vraiment dans le sens où on s'inscrit. Et on voit aussi, on pense par exemple à Télé-Québec qui pourrait voir travailler plus cette dimension-là et les médias communautaires. Mais ça, ces propositions de travail-là ne font pas l'unanimité, vous voyez bien, au sein du Conseil. Mais il y a aussi des éléments orientés sur la formation des gens. Les gens voudraient que l'information, la formation, l'éducation aux médias soit quelque chose qu'on puisse mettre obligatoire dans les cours de citoyenneté, par exemple, dans les écoles secondaires. L'éducation... Giddens disait que les gens passent... C'était là son grand appel aux médias au niveau de créer une société réflexive, parce que les gens passaient la grande majorité de leur vie devant les médias plutôt... plus que devant dans une salle de classe. Donc, vous voyez l'importance que ça a.
Donc, ça fait plus de financement, plus de médias communautaires, plus d'éducation de la population.
Sûrement. Moins précarisé. L'Internet haute vitesse partout donne aussi des chances pour faire des portails régionaux, parce que ça ne sert à rien de faire ça quand tu n'as pas Internet haute vitesse. Ça, au moins de ce côté-là, il y a eu un certain nombre de bonnes nouvelles.
Merci de votre présentation. Le résultat final, ou qui n'est pas encore terminé, puisqu'il y a un blocage dans le processus, ça me rend perplexe sur la capacité que peuvent avoir les sociétés à s'organiser pour des dossiers qui sont quand même gérables. C'est pas immense, ça devrait pouvoir se faire. Enfin, j'espère que ça pourra débloquer. Moi, je vais avoir des informations au sujet des dossiers que vous avez dit, des dossiers ont été faits par les gens dans différentes régions, les gens qui sont en
culture, mémoires,
en
oui.
transport, les Premières Nations. De quoi étaient constitués ces dossiers? Est-ce que c'est des revues de presse, analyse de contenu, du travail de collaboration avec des professeurs? Qu'est-ce que c'était?
Il y a différentes choses qui ont été faites. Il y a des régions, je pense à Chaudière-Appalaches, qui, eux, ont continué dans l'esprit de la tournée. Ils sont allés, ils ont fait un inventaire, ils ont rencontré tous les journalistes, tous les gens qui travaillent en développement, et ils ont produit un excellent rapport qui est disponible sur le site des CRI de la région de Chaudière-Appalaches. Dans la région de Valleyfield, ils ont fait une enquête très bien documentée sur leur incroyable mauvaise couverture journalistique. Les commissions scolaires ont fait la même chose. Ils ont M. Caron a travaillé sur la documentation de la couverture des commissions scolaires et il y a vraiment des choses très troublantes. L'Agence de santé de Montréal a fait la même chose. On a travaillé sur, a fait une analyse bien documentée sur le type de couverture dont, j'ai presque failli dire, ils sont victimes, là, mais en fait, le type de couverture qu'ils reçoivent.
Question d'information concernant le recrutement pour les tournées. Ayant participé un peu à une autre tournée, celle de la commission Bouchard-Taylor, on s'est rendu compte à un moment donné, et dans quelle mesure est-ce que ça fausse la donne, peut-être un peu, c'est qu'il y a quand même un processus de les Anglais diraient self-selection, hein, quand on dit aux gens, écoutez, venez nous parler de vos problèmes avec les groupes minoritaires, venez nous parler de vos relations avec les médias, les gens qui vont se dire, plutôt que d'aller emmener leur petit au hockey ou s'occuper de leur jardin, s'occuper, il y aura l'échantillonnage qu'on va avoir ne sera pas nécessairement représentatif. Donc, c'est intéressant pour voir un peu dans quelle mesure on a une représentativité de jumeler les entrevues un peu qualitatives qu'on fait, là, semi-dirigées, avec un gros sondage où là, on va aller chercher là, de la quantité pour voir si le monde à qui on a parlé est représentatif ou bien si, au contraire, il trahit un peu cette tendance qu'on a à, si vous dites aux gens, là, venez nous parler des médias un samedi matin, vous allez voir des gens qui ont quelque chose à dire, quelque chose sur le cœur déjà à propos des médias. Ouais. Donc, je me demandais s'il y avait eu ce genre de contrôle.
Ben, en fait, c'était l'idée d'avoir deux. Il n'y a pas uniquement des rencontres publiques. Les rencontres publiques, on a eu un peu ce que vous dites. De toute façon, s'il y avait une rencontre dans ma région sur la violence au hockey mineur, j'irais pas. Donc, c'est sûr qu'on va regrouper des gens qui ont un certain intérêt. Hein. Mais les rencontres avec les acteurs socio-économiques qui, eux, ont fait des enquêtes, et je pense, par exemple, aux dames qui travaillent beaucoup au niveau de la culture en Abitibi-Témiscamingue, qui ont fait une enquête auprès de leurs membres, arrivait et il n'y avait pas de média bashing dans cette histoire-là. Donc, c'est plutôt de ce côté-là qu'on pouvait faire ça. On n'a pas eu de grande enquête. On n'avait pas prévu ni les moyens de faire ça. Comme je vous disais, le CRTC prend ses décisions sur beaucoup moins que ça. Mais je pense qu'il y avait les CRI, quand ils font des sondages dans leur région, quand ils travaillent dans leur région, je pense qu'eux avaient une dimension de... Il y a la FPJQ qui a fait un sondage, mais on a de sérieux problèmes avec leur modalité d'échantillonnage. Quand on demande, par exemple, la satisfaction régionale, la couverture régionale à 600 répondants, c'est bon, puis tout le monde à 70 % sont d'accord. Le problème, c'est que là-dedans, on a maintenu les échantillons de Québec et de Montréal. Ce qui fait qu'au prorata, on tombe avec une satisfaction de ça de 25 %. Mais ce qui a été publié, puis ce qui est sorti, c'est que tout le monde était content à 70 %. Alors là, on avait des petits problèmes.